Merci. Bien, je vous remercie tous pour cette reprise annuelle de cet interminable feuilleton qui risque loin d'être terminé, malheureusement, pour les intéressés. En tout cas, comme vous avez pu le noter, on l'avait démarré en 2003 par l'année 1947. Donc, de 1947 à 1979, il nous a fallu 7 ans pour arriver à faire 32 ans du feuilleton, ce qui nous laisse quelques espérances, puisqu'il faut une année pour en faire 4. On pourra, d'ici quelques années, arriver à la plus brûlante actualité. Compte tenu qu'à faire à mesure que l'on rapproche du temps présent et de l'histoire immédiate, les méthodologies changent, puisque nous sommes en train de quitter le temps des archives, étant donné qu'en général, les fonds d'archives sont accessibles à 30 ans, au minimum. Donc nous sommes dans les derniers moments des archives et nous allons, dans le cours de cette année qui commence à 1979, commencer à entrer dans les zones hors archives, ce qui, évidemment, implique d'autres méthodes, en particulier un usage beaucoup plus systématique des ressources de presse que pour la période précédente, puisque la presse devient une source presque unique, enfin considérable en tout cas, d'informations. Mais ce qu'on perd en archives, on le gagne en contemporanéité, dans la mesure même où les événements qui sont décrits, ou moi, en tout cas moi je les ai vécus, donc c'est rempli de souvenirs tangibles de cette période dans cette région du monde. Alors, l'année dernière, j'avais terminé, me semble-t-il, par le traité de Washington de mars 1979, traité qui conclut juridiquement ce qu'on appelle les accords de Camp David. Mais il est intéressant de noter que dans la mémoire collective de la région, chez les acteurs, on parle toujours de Camp David et non pas du traité de Washington, bien que juridiquement ce soit le traité qui compte. Traité qui, en Égypte, est soumis à référendum et le score est particulièrement honorable pour l'Égypte, puisque c'est du 99,95% d'approbation. Enfin, quand on sait que la règle en Égypte, c'est le 99,99%, on a dû donc abaisser un petit peu la note pour marquer le coup. Le 29 avril, pour la première fois, un bâtiment civil israélien traverse le canal de Suez et en même temps, on discute, on prépare le premier grand retrait israélien du Sinaï. En Égypte, Sadat dispose d'un véritable soutien populaire et joue la carte du nationalisme égyptien. Ses attaques véhémentes contre les autres régimes arabes sont bien accueillies par la population. Mais dans la scène politique intérieure égyptienne, les islamistes, les frères musulmans en particulier, ont pris position contre le traité, alors que jusqu'ici, Sadat avait plutôt encouragé le développement des frères musulmans pour contrer la gauche égyptienne. De ce fait, Sadat condamne publiquement la politisation de l'islam. Mais ce conflit en Égypte face aux islamistes n'est que l'un des conflits de la région parce que c'est à la fin des années 70, voit toute une série d'affrontements entre les mouvements islamistes radicaux et les pouvoirs en place dans le Proche-Orient. En Syrie, les frères musulmans basculent dans une opposition armée au régime bassiste et les événements sont particulièrement violents dans des villes comme Hama ou Alep à partir de 1979. En Irak, les grands religieux chiites mènent une contestation ouverte et radicale du régime bassiste de Saddam Hussein. Et là, on peut pratiquement parler d'une situation de pré-guerre civile en Irak. Néanmoins, la répression extrêmement brutale du régime de Saddam Hussein écrasera cette amorce de rébellion. Donc, le traité de Washington correspond dans une séquence historique très précise au moment où les régimes issus du nationalisme arabe se sont pratiquement maintenant totalement officialisés, routinisés, et que les forces de contestation sont passées du côté des islamistes. Au moment où on échange la ratification, les instruments de ratification du traité le 25 avril, dans la zone tampon du Sinaï, on commence à aborder le problème de l'autonomie de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, donc des négociations qui doivent s'ouvrir entre l'Égypte et Israël à ce sujet. Et il est déjà très clair qu'il n'y aura aucun autre interlocuteur dans les discussions sur l'autonomie, puisque la Jordanie a refusé d'y participer, et que les notables palestiniens des territoires occupés n'ont aucune illusion sur la politique israélienne et donc refusent aussi de participer aux négociations sur l'autonomie. Alors, en même temps, il faut toujours avoir l'idée dans toute cette période qu'il se passe quelque chose au Liban, hein, parce que le Liban est la principale scène armée où se déroule un certain nombre d'aspects du conflit. Et plus spécifiquement au Liban, c'est toujours la question de la zone sud du Liban, c'est-à-dire le Liban sud, occupé en partie par l'armée israélienne. Et donc, là, vous avez là, sur cette mauvaise carte, pas peu lisible malheureusement, la zone tenue par les milices pro-israéliennes au Liban sud. Et depuis 1976, la question est celle du retour de l'armée libanaise dans cette région. Ce retour voit l'opposition en fait des différents acteurs du Liban sud, plus feutrés des progressistes et de la résistance palestinienne, ce qu'on appelle à l'époque les forces communes, et ouverte de l'armée du Liban sud, la milice de Sadr Hadad, au service d'Israël. Et entre les deux feux, en quelque sorte, vous avez la FINUL, donc la force intérimaire des Nations Unies au Liban, qui essaye de négocier désespérément entre les différentes parties présentes. Et à chaque fois qu'il y a des attentats en Israël ou dans les territoires occupés, les Israéliens procèdent à des représailles sur le Liban. Et c'est la population civile libanaise en avril-mai 1979 qui reçoit comme d'habitude, qui paye comme d'habitude le poids lourd, enfin le prix très lourd des représailles israéliennes. Et Begin a beau, le 7 mai 1979, à la tribune de la Knesset, inviter le président Sarkis à négocier comme Sadat l'avait fait, il indique aussi que l'Israël exige le retrait des troupes syriennes. Et pour la première fois, Begin mentionne le fait qu'il faudrait expulser la population palestinienne du Liban, c'est-à-dire que pour la première fois, officiellement, le chef du gouvernement israélien adopte le programme radical du jeune chef chrétien Bachir Gemayel, qui évidemment approuve la position de Begin. Alors, évidemment, trop tôt, à cette date, 79, pour penser à une nouvelle intervention massive d'Israël au Liban, mais cette prise de position de Menachem Begin montre que dès cette époque, on pense à cette nouvelle guerre du Liban pour liquider le facteur palestinien. Mais dans l'immédiat, et ça va expliquer la relative pause qui va durer quelques mois, la priorité absolue est à l'application du traité de Washington. Donc, en particulier, la question du retrait des colons israéliens du Sinaï. Le premier retrait israélien, normalement, ne touche pas les zones où il y a des colonies israéliennes. Néanmoins, ça, c'est les subtilités de la politique, il existe une colonie illégale à proximité de la Riche, donc sur la Méditerranée, et le jardin de cette colonie illégale est dans la zone d'évacuation prochaine. Donc les colons essayent de bloquer l'évacuation et il y a donc une épreuve de force entre le gouvernement israélien pour le jardin. On s'entend bien, c'est un jardin dont il est question. En tout cas, le 25 mai, le premier grand retrait israélien a lieu à El Arish. La population accueille avec enthousiasme l'armée égyptienne et le retour du drapeau égyptien. Et le même jour commence à Beer Sheba, donc dans le Negev, en Israël, le premier round des discussions sur l'autonomie. Autre élément du climat, c'est qu'on commence à ressentir sur le marché international les conséquences de la révolution iranienne. La révolution iranienne a d'abord paralysé, dans la phase montante de la révolution, la production du pétrole en Iran. Donc, en fait, l'Iran a cessé d'exporter pétrole. Et cette situation, normalement, aurait dû être parfaitement gérable en fonction des stocks de pétrole disponibles sur le marché mondial. Mais cette crise d'approvisionnement a provoqué une hausse du prix du pétrole sur le marché libre du pétrole. Et les États producteurs du monde arabe et non arabe d'ailleurs, ils sont tous intéressés, voient qu'il est plus financièrement enrichissant de s'adresser sur le marché libre, donc ils commencent à mettre fin systématiquement aux ventes de pétrole contractuelles sur plusieurs années qui avaient été décidées les années précédentes pour tourner vers le marché libre du pétrole. Et évidemment, en même temps, ça provoque une spéculation intense sur le marché libre du pétrole. Donc, ce qu'on va appeler bientôt le second choc pétrolier est plus alimenté par un basculement qui va se révéler irréversible de la vente du pétrole sur le marché libre et non plus sur la vente régulée par contrat de longue durée. Et bien évidemment, dans un premier moment, les pays producteurs vont bénéficier de cette hausse rapide du prix du pétrole sur le marché libre, mais vont ensuite être victimes, puisque quand les cours baisseront, ils n'auront plus à leur tour les garanties des contrats de longue durée d'approvisionnement. Donc ceci pour vous mettre tout le climat de l'année 79. le 11 juin 1979 se tient à Alexandrie la première session des discussions sur l'autonomie palestinienne. Alors les Égyptiens ont proposé l'hôtel le plus moderne de la ville pour tenir les discussions. C'est dans l'ancien palais royal de Farouk Alexandrie à Montaza. Seul problème, c'est que l'hôtel s'appelle Palestine. Et donc les Israéliens refusent de discuter à l'hôtel Palestine, bien que ce soit le seul hôtel qui dispose d'air conditionné. Donc on se rapatrie sur un autre hôtel, et bon, gentiment, les Égyptiens installent d'urgence un peu d'air conditionné dans les locaux de discussion. Et surtout, Begin fait passer le message que les positions israéliennes seront extrêmement fermes sur le dossier de l'autonomie. Le dossier est retiré aux deux personnes qui normalement devraient l'avoir à le gérer, c'est-à-dire Moshe Dayan en tant que ministre des Affaires étrangères et Ezer Weizmann en tant que ministre de la Défense. Ils sont connus pour avoir des positions plutôt modérées sur le sujet. On confie le dossier au ministre de l'Intérieur, qui est considéré plutôt comme un dur. Et ensuite, les négociations vont alterner entre l'Égypte et Israël, mais en fait, c'est des négociations vides de sens. Boutros Rally, dans ses mémoires à l'époque, il est l'un des négociateurs égyptiens, fait l'assimilation à une scène de six personnages en quête d'auteur de Pirandello. Je cite, « Tout le monde jouait un rôle dans une pièce sans scénario. L'objectif était de gagner du temps et de masquer une vérité douloureuse, à savoir que l'on n'avait pas l'intention de résoudre le problème palestinien. » Donc, ces discussions sur l'autonomie appartiennent plus au domaine des relations publiques. Elles sont le pendant nécessaire à l'application sur le terrain du traité de Washington. En revanche, ça date, mais évidemment tout son poids pour l'application du traité du côté des intérêts nationaux égyptiens. Et à partir de ce moment-là, il rivalise d'amabilité auprès de Begin. Il va jusqu'à l'appeler par son prénom, ce qui choque à Begin, qui est toujours attaché au respect des femmes. Et donc, la seconde phase de l'évacuation a lieu le 24 juillet ou 25 juillet sur la carte, vous voyez, 1979. Donc ça, c'était l'évacuation de mai. Excusez-moi. Donc, la première phase était ici. La seconde phase est ici sur la carte du retrait israélien du Sinaï. Et un nouveau problème technique s'est posé. Le mandat de la force d'urgence des Nations Unies, la FUNU en français, installée en 1974 dans le Sinaï, arrive à sa fin. Et comme la majorité de l'Assemblée des acteurs des Nations Unies sont hostiles au traité de Washington, il n'est pas possible de maintenir la FUNU dans le Sinaï. Alors les États-Unis proposent comme remplacer la FUNU par en revenir à la plus vieille des forces de l'ONU présentes dans la région, c'est-à-dire l'ONUST, l'Organisation des Nations Unies pour le respect de la trêve, la surveillance de la trêve, l'ONUST. Rappeler qu'elle avait été créée par Bernadotte en 1948 et qui est toujours présente à côté des autres forces de l'ONU. Mais les Israéliens ne veulent pas de l'ONUST parce qu'elle dépend directement du secrétaire général de l'ONU et non pas du Conseil de sécurité. Donc elle pourrait être retirée comme l'avaient été retirés les casques bleus du Sinaï en juin 1967. Donc on commence à discuter du remplacement de la force internationale par une force multinationale. Alors, pour un rappel de vocabulaire pour lequel je reviendrai plusieurs reprises, on fait la distinction entre force internationale et force multinationale. Quand on parle de force internationale, vous êtes dans le cadre de l'ONU. Quand on parle de force multinationale, vous êtes en dehors du cadre juridique de l'ONU. Autre problème toujours, l'ambassade d'Égypte à Ankara, en Turquie, est attaquée le 13 juillet par un commando palestinien. L'Égypte accuse la Syrie d'être derrière cette attaque, et le 25 juillet, Zohair Mohsen, qui était le chef de la Sarika, donc l'organisation palestinienne d'obédience bassiste syrienne, est assassiné en France. Faut dire que c'était un homme qui n'avait pas de grandes préoccupations de sécurité, et que c'était une époque où les terroristes fréquentaient plutôt les casinos de la Côte d'Azur. Et donc c'est à la sortie du casino qu'il a été assassiné. C'est pas comme aujourd'hui, ils vont se réfugier dans des caves quelque part, dans le Waziristan. Ces chefs palestiniens avaient un mode de vie très relâché, pour le moins. Alors, pendant ce temps, Arafat, lui, lance une offensive diplomatique vers l'Europe, et en juillet 1979, il fait sa première visite officielle dans un pays européen, l'Autriche, où il est reçu par le chancelier Kreisky et par Willy Brandt, le chancelier allemand. Enfin, non, à l'époque, il est président, l'ancien chancelier allemand. Cette rencontre autrichienne a lieu dans le cadre de l'International socialiste, donc ce n'est pas une invitation d'État. Mais néanmoins, il a été reçu pour la première fois par un chef d'État et par un ancien chef d'État. Et on commence à discuter de la possibilité d'un nouveau texte de l'ONU qui intégrerait les droits des Palestiniens, c'est-à-dire la fameuse question de la modification de la résolution 242. Et il est vrai que l'administration Carter, une fois le traité de Washington conclu, essaye de faire quelques manœuvres exploratoires dans ce sens. Ce qui fait que les Israéliens l'accusent d'être plus intéressés par le pétrole du Moyen-Orient que par autre chose. Et le ministre de l'Intérieur israélien déclare publiquement que les États-Unis préfèrent les puits de pétrole, oily places, plutôt que les lieux saints, holy places. Un jeu de mots en anglais, mais qui renvoie à cette hausse vertigineuse des cours du pétrole à partir de cette période de 1979. Alors, comme vous rappelez que depuis l'accord Sinaï II, les Américains se sont interdits d'avoir des relations directes avec les Palestiniens de l'OLP. Et donc, vous voyez, la couverture du Time sur la montée du prix du pétrole. Et donc, l'accord Sinaï II leur interdit d'avoir des relations directes avec les Israéliens, mais des contacts, en fait, ont toujours été maintenus par le biais de personnalités indépendantes du gouvernement américain. Donc, n'étant pas officiellement mandatés par le gouvernement américain, ils peuvent rencontrer des responsables de l'OLP, et une fois qu'ils ont rencontré les responsables de l'OLP, ils peuvent transmettre les messages à l'administration américaine. Mais à New York même, l'OLP a une délégation permanente aux Nations Unies. Et l'ambassadeur américain à l'ONU, Andrew Young, qui est le premier noir américain à atteindre un poste de ce rang, rappelait que dans le système américain, le représentant permanent des Nations Unies à l'ONU a le rang de membre du cabinet, c'est-à-dire donc l'équivalent de ministre dans notre propre système. Et André Young était l'homme du rapprochement entre les États-Unis et le tiers-monde, hein, l'ancien leader des droits civiques aux États-Unis, a évidemment une grande ouverture vers les pays du tiers-monde. Et Young a rencontré discrètement le représentant de l'OLP au domicile privé de l'ambassadeur du Koweït à New York le 26 juillet. Il n'en a pas informé préalablement Carter et Cyrus Vance, le secrétaire d'État. Dans la version que donnera Young, il n'a parlé que durant un quart d'heure avec le représentant de l'OLP. Mais les Israéliens, en fait, surveillent en permanence la délégation palestinienne à New York et selon toute probabilité, ils ont mis aussi sur écoute toutes les communications de la délégation palestinienne. Donc, au bout de quelques jours, les Israéliens organisent la fuite de l'information comme quoi l'ambassadeur américain aurait rencontré le représentant de l'OLP. Et Young affirme que c'était un fait du hasard, que ce n'était pas prévu à l'avance et qu'il n'y a pas de modification de la politique américaine. Néanmoins, le gouvernement israélien adresse une protestation officielle affirmant que l'ambassadeur américain a menti publiquement. Furieux, Cyrus Vance exige de Young qu'il démissionne, ce qu'il s'exécute le 15 août 1979. Pour l'administration Carter, c'est un coup très rude, puisque Young était extrêmement populaire dans la communauté noire américaine, et en même temps, toute la manœuvre diplomatique d'approche de l'OLP est paralysée. Mais les Israéliens aussi enregistrent des pertes dans cette affaire, puisque la démission d'André Young provoque une montée d'hostilité envers Israël et les Juifs en général dans la communauté noire américaine, puisque Young était à l'époque la personnalité la plus importante de la communauté noire américaine. Et on verra ainsi en octobre 1979 le révérend J.C. Jackson faire une tournée au Proche-Orient. Les Israéliens refuseront de le recevoir, contrairement aux leaders arabes. Jackson pourra ainsi rencontrer Arafat et Assad. Et si le leader noir américain identifie la lutte des Palestiniens à celle des droits civiques aux États-Unis, il plaide aussi pour la non-violence et la coexistence pacifique avec Israël. Alors, par ailleurs, vous avez un vrai développement d'antisémitisme dans une fraction conséquente de la communauté noire américaine, qui en particulier alimenté dans des villes comme New York par des conflits de voisinage entre les quartiers noirs et les quartiers de peuplement juif dans la grande ville. Alors, les Américains ont désigné un nouveau négociateur pour l'autonomie, il s'agit de Robert Strauss, qui a une bonne réputation de diplomate et donc on sait que de toute façon c'est très largement fictif puisque tout le monde considère déjà que rien ne peut sortir de réellement important des négociations sur l'autonomie. Arafat, lui, continue ses tournées européennes. En septembre 1979, il est reçu, cette fois-ci officiellement, par un État européen qui est l'Espagne. Et c'est le fait que ce soit l'Espagne est dans la ligne du fait que l'Espagne de Franco a toujours maintenu d'excellentes relations avec le monde arabe, n'avait pas de relations officielles avec l'État d'Israël. Alors là, on n'est plus sous Franco en 79, on est dans les gouvernements de transition, dans la voie de la démocratisation de l'Espagne, on est à l'époque d'Adolfo Suarez, mais disons que le fait que la diplomatie franquiste a toujours maintenu de bons contacts avec les pays arabes a certainement joué. Et en Europe, un consensus général est en train de dessiner pour arriver à une résolution européenne sur la question du Proche-Orient, la France de Giscard d'Estaing étant plutôt favorable à une déclaration assez ferme sur ce sujet. Le 7e sommet Sadat Begin a lieu à Haïfa, 4-5 septembre 1979. L'atmosphère est vraiment cordiale. On rappelle les désaccords, mais on essaye surtout de résoudre les questions techniques issues du désengagement dans le Sinaï. À l'ONU, on discute de la question de Palestine à l'Assemblée générale de l'automne. Pour la première fois, les 9 membres, parce qu'on est à l'époque à l'Europe des 9, de la CE, propose d'ajouter 4 principes à la résolution 242, qui sont en fait des rappels de la Charte des Nations Unies: l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la force, la nécessité de mettre fin à l'occupation israélienne des territoires occupés, le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance de chaque État de la région et de son droit à vivre en paix dans des frontières sûres et reconnues. Les Palestiniens ont le droit à une patrie et le droit de jouer pleinement leur rôle par l'intermédiaire de ses représentants dans la négociation d'un règlement global. Et l'OLP est l'une des parties prenantes du conflit. C'est la nouvelle position de l'Union, enfin c'est pas encore l'Union européenne, de la communauté européenne à l'époque. Alors en France, l'ambassadeur d'Israël déclare qu'inviter Arafat en France serait pour nous comme si on accueillait en France Hitler aujourd'hui, ce qui provoque une protestation du gouvernement français. Au Liban, la violence est omniprésente. Alors, je suis obligé de le rappeler pratiquement à chaque fois que je parle du Liban, mais c'est bien une guerre permanente au Liban, une guerre multiple qui a lieu entre des acteurs très différents et en fonction d'intérêts très différents dans l'ensemble du territoire libanais. La stratégie israélienne a toujours été de frapper les populations afin de les monter contre la présence palestinienne. Et cette stratégie semble, à l'automne 79, porter ses fruits, puisque le mouvement chiite Amal, pour la première fois, commence à affronter directement les forces palestiniennes pour les chasser d'un certain nombre de secteurs. Et on peut voir qu'il peut y avoir des transformations prochaines de la scène intérieure libanaise. Alors, dans ce cadre, l'administration Carter paraît toujours plus affaiblie après la chute de l'Iran, comme on dit à l'époque, la perte de l'Iran, qui est un traumatisme égal à la perte de la Chine en 1948 pour les États-Unis. Et ce qu'on ne note pas, et qui est pourtant essentiel de l'avenir, c'est les décisions que l'administration Carter commence à prendre à partir de la fin 1979. Puisque fondamentalement, c'est à l'automne 1979 que commence le réarmement des États-Unis. Pour rappeler la ligne après la fin de la guerre du Vietnam, le budget militaire américain avait très nettement baissé et l'effort militaire américain avait considérablement diminué face aussi aux montées du pacifisme après la guerre du Vietnam. Or, à partir de 1979, les premières décisions essentielles vont être de démarrer le réarmement des États-Unis. Ça va être essentiel pour l'avenir parce que, on le verra ensuite, l'administration Reagan va accélérer le réarmement des États-Unis et lancer une nouvelle lutte de compétition avec l'Union soviétique. Alors, postérieurement, les gens auront en mémoire surtout l'action de l'administration Reagan. Mais en réalité, le lancement a été fait à partir de 1979. Autre chose importante, c'est que l'administration Carter semble impuissante face à la montée de l'inflation mondiale, donc aux États-Unis évidemment, et face à la hausse du prix du pétrole en 1979. Or, on ne note pas l'importance en 1979 de la désignation comme directeur de la Réserve fédérale des États-Unis de Paul Volcker par Carter. Et Paul Volcker a été chargé de briser l'inflation américaine. Donc, au passage, l'inflation mondiale. Et ce qu'on n'a pas compris sur le moment, c'est qu'en même temps que commence le réarmement américain, commence une phase de politique monétaire restrictive avec hausse accélérée des taux d'intérêt américains qui va provoquer dans la foulée une hausse accélérée des taux d'intérêt mondiaux qui va amener la généralisation dans les années 1980 des politiques anti-inflationnistes dans le monde industrialisé. Et à partir de, en même temps, la hausse accélérée des taux d'intérêt mondiaux menés politiques directement dirigés par les États-Unis va avoir de multiples conséquences, puisque dans un premier moment, nous le verrons, pour ceux qui se rappellent cette période, cette hausse accélérée va casser l'économie des pays du tiers-monde en créant une gigantesque crise de l'endettement des pays du tiers-monde. La seconde conséquence, c'est que cette politique monétaire américaine va amener l'effondrement de l'économie du bloc de l'Est, et ensuite de l'Union soviétique, parce qu'ils sont obligés de s'endetter à des taux de plus en plus élevés auprès des banques occidentales. Dès 1980, on verra en Pologne les premières conséquences de la politique monétaire américaine, puisque c'est pour essayer de limiter l'endettement de la Pologne, que le gouvernement polonais essaye de rétablir la vérité des prix, pas la liberté des prix, en Pologne, donc de mettre fin aux subventions, ce qui va provoquer les émeutes ouvrières de Gdansk et l'apparition du mouvement Solidarité en Pologne. Ceci pour la mémoire collective, même si on s'éloigne un peu de notre sujet, mais évidemment tout est lié. Les deux décisions américaines essentielles prises par l'administration Carter à l'automne 1979, le réarmement américain et la lutte contre l'inflation, seront les deux moteurs qui vont façonner les années 1980 et qui vont conduire directement dans la seconde partie des années 1980 à la chute de l'Union soviétique. Mais bien évidemment, comme d'habitude, les contemporains ne peuvent pas le savoir, c'est le bonheur des historiens de voir que les gens ont pris des décisions sans comprendre les conséquences, parce qu'il est tout à fait probable que si on avait dit au président Carter en 79 que les deux décisions qu'il avait prises allaient conduire dans moins de 10 ans à la chute de l'Union soviétique, il aurait considéré son interlocuteur comme fou. Mais c'est important à noter rétrospectivement, puisque nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle la Seconde Guerre froide, c'est-à-dire l'ultime phase de la guerre froide. Alors, du côté israélien, on essaye de renforcer le contrôle de la Cisjordanie, et on voit bien la contradiction théorique de la politique israélienne, puisque d'un côté, on est censé discuter une autonomie de la Palestine, enfin des territoires occupés, et de l'autre côté, on essaye de détruire systématiquement toutes les infrastructures politiques palestiniennes qui pourraient permettre de constituer un embryon d'État dans les territoires occupés. C'est-à-dire qu'on empêche l'émergence de tous ceux qui pourraient être des interlocuteurs d'une autonomie palestinienne. Et dans ce cadre-là, c'est Ariel Sharon qui mène comme ministre de l'Agriculture cette politique contre l'avis de Dayan et Weizmann, ce qui amène le 21 octobre 1979 la démission de Moshe Dayan, qui de toute façon n'a plus que 2 ans à vivre puisqu'il est atteint d'un cancer et qu'il va progressivement se retirer de la scène politique. Parallèlement, la colonisation de la Cisjordanie est accélérée, même si les chiffres de l'époque, évidemment, paraissent dérisoires par rapport aux chiffres d'aujourd'hui. Il y avait 5023 colons en 1977, 10 000 en 1979, 16 000 en 1980. L'intention proclamée du gouvernement israélien est de provoquer des faits irréversibles dans les territoires occupés. Et dans les territoires occupés, on cherche à supprimer donc les embryons de mouvements nationalistes, ce qu'on appelait à l'époque le Front National Palestinien, qui a été ensuite remplacé par le Comité d'orientation nationale, qui est plutôt d'obédience Fatah. La situation paradoxale de l'économie des territoires occupés se révèle dans l'action éducative. Traditionnellement, les Palestiniens, dès la période de la fin du mandat britannique, avaient beaucoup investi dans l'éducation. Mais surtout, l'occupation israélienne, et on retrouve le même phénomène qu'on avait eu pour les Arabes israéliens, gèle l'évolution démographique des territoires occupés. Les populations ne peuvent pas bouger. Donc ça limite l'exode rural, et donc les villages grossissent en permanence parce qu'il n'y a pas d'exode rural, alors que la population continue d'augmenter. Par ailleurs, les revenus agricoles continuent de diminuer, d'où la volonté des gens de se tourner vers une meilleure éducation. Et on essaye de faire l'éducation sur place parce que le slogan palestinien par excellence dans cette période, c'est la volonté de tenir bon, le soumoud. Ça veut dire vraiment s'entêter, tenir bon, faire face à l'occupation israélienne. Et donc, on tend à limiter les départs des jeunes à l'extérieur des territoires pour les éduquer sur place. Mais une fois qu'on les a éduqués sur place, d'où le développement d'universités privées, puisqu'il n'y a pas d'université d'État en Cisjordanie par définition, dans les territoires, les jeunes sortis des universités n'ont que de peu de débouchés dans l'économie des territoires. Alors, on arrive à la situation suivante, que les jeunes diplômés palestiniens soit se retrouvent comme travailleurs manuels dans l'économie israélienne, comme travailleurs quotidiens, au sens quotidien du terme, ils peuvent travailler dans la journée, mais ils doivent rentrer tous les soirs dans les territoires. Et ils sont évidemment en situation de déclassement social permanent par rapport à leur niveau de formation. Soit ils partent travailler dans la péninsule arabique, permettant ainsi des transferts financiers à leur famille, mais ils sont sur le qui-vive permanent et doivent revenir régulièrement dans les territoires pour pouvoir conserver leur droit de résidence. Hein, parce qu'une des astuces de la politique israélienne, c'est de profiter que les gens s'absentent des territoires pour supprimer le droit de résidence, donc en fait les expulser de fait sans avoir à prononcer un acte d'expulsion. Vous comprenez le système. Alors, on a donc dans les familles des sentiments de jalousie entre ceux qui doivent travailler en Israël et qui sont des déclassés sociaux, ceux qui ont trouvé des emplois dans les institutions palestiniennes qui sont financées de l'extérieur, et ceux qui ont émigré temporairement dans les pays du Golfe. Les universités sont le fer de lance de la lutte nationale. C'est les jeunes qui animent les manifestations publiques contre l'occupation. Et du coup, la stratégie israélienne va essayer de contrer le développement des nationalistes dans les universités en favorisant le développement des mouvements islamistes dans les territoires. On va ainsi voir dans la bande de Gaza les autorités israéliennes encourager le développement des frères musulmans, en particulier ceux du groupe autour du Cheikh Yassine, puisque ces islamistes sont apolitiques et qu'ils sont prêts à faire le coup de poing contre les nationalistes du Fatah, considérés comme trop laïcs. On voit ainsi en janvier 1980 des étudiants islamistes saccager les bureaux du Croissant Rouge palestinien à Gaza, qui est le Croissant Rouge étant la principale organisation humanitaire palestinienne, qui est évidemment d'obédience nationaliste. Et par ailleurs, les manifestants islamistes incendient des cafés, des hôtels et un cinéma. Et donc les Israéliens se félicitent du développement de l'islamisme dans la bande de Gaza, puisque ça limite le rôle du Fatah et de l'extrême gauche palestinienne dans cette région. C'est exactement ce qu'il ne fallait pas faire, puisqu'en fait, ces étudiants islamistes seront la matrice d'où sortira le Hamas à la fin des années 1980. Mais il est incontestable que, dans cette période, ils ont été pour le moins tolérés par l'administration militaire israélienne, voire même, dans un certain nombre de cas, encouragés. Ce qu'on appelle dans la région la politique de l'erreur de calcul. La politique de l'erreur de calcul, qui est une des grandes théories d'analyse des systèmes politiques des Moyen-Orient, politique of miscalculation, en anglais, auquel j'adhère totalement, en disant que fondamentalement c'est une politique de l'erreur de calcul qui est menée par tous les acteurs régionaux et internationaux au Moyen-Orient. Mais là encore, l'historien sait que c'est une erreur de calcul. Ah, c'est notre avantage. Nous sommes très bons pour prévoir le passé. En dehors du soutien aux islamistes, les autorités israéliennes en Cisjordanie vont commencer à encourager l'émergence de ce qu'on appelle des ligues de village, qui officiellement permettraient la représentation des villages auprès des autorités militaires et favoriseraient leur développement économique. Ces ligues sont définies comme apolitiques, mais elles sont financées par les autorités d'occupation. Elles tirent leur recrutement de la nécessité pour les villageois de passer par elles pour obtenir les multiples autorisations qui ponctuent leur vie quotidienne. Et dans la pensée du gouvernement israélien, c'est avec ces apolitiques qu'on le négociera ensuite l'autonomie palestinienne, ce qui est évidemment une contradiction. Comment peut-on négocier politiquement avec des gens définis comme apolitiques ? Alors, tourmente régionale aussi, puisque la fin de 1979 va encore aggraver la crise moyen-orientale. Ça va commencer en Irak avec le fait que le vieux président Bakr démissionne officiellement pour raison de santé. C'est d'ailleurs à peu près le seul chef d'État irakien qui aura démissionné de la carrière. Généralement, les autres sont assassinés ou exécutés après, ou en tout cas renversés. Bakr a été gentiment sommé de céder la place à son cousin Saddam Hussein, qui a maintenant la volonté de prendre tous les leviers du pouvoir, même s'il en contrôlait déjà largement ses leviers auparavant. Mais ce qui a amené la chute de Bakr, c'est le fait que depuis le sommet de Bagdad, théoriquement, il y a une réconciliation entre la Syrie et l'Irak bassiste. Et Saddam Hussein, arrivant au pouvoir, va évoquer un complot syrien destiné à s'emparer du pouvoir à Bagdad. Et donc, il va commencer sa prise de pouvoir à la fin juillet en liquidant une bonne partie des membres du Conseil de commandement de la Révolution pour complot, conspiration avec des puissances étrangères. La scène est célèbre. Les pauvres gars, il avait réuni le Conseil de la Révolution et puis il les appelait les uns après les autres. Ils étaient dans la pièce à côté où ils étaient exécutés immédiatement. Ce n'était pas un tendre. Et le tout a été filmé. Et donc, à partir du mois d'août, l'Irak commence à dire que le complot est un complot syrien. Alors qu'en Syrie, Assad, lui qui est lancé dans une lutte à mort contre les frères musulmans, va essayer de contrer la menace islamiste en se rapprochant de l'Iran révolutionnaire. Or, cet Iran révolutionnaire est l'ennemi de l'Irak. Le rapprochement qui s'amorce entre la Syrie et l'Iran à la fin 79 est un facteur qui aggrave la tension entre les deux régimes bassistes. En Iran même, on est en pleine phase révolutionnaire, c'est-à-dire que le pouvoir révolutionnaire, depuis la chute du Shah, essaye de contrôler le pays, et ça implique une politique de terreur contre les opposants, enfin d'abord contre les tenants de l'ancien régime du Shah, qui sont exécutés massivement, terreur contre ceux qui ont participé à la révolution, mais qui pourraient constituer des concurrents de la ligne de l'imam Khomeini, et terreur contre les différents mouvements autonomistes régionaux de l'Iran, en particulier les Kurdes ou les Balouches, c'est-à-dire les non-iraniens, qui sont soumis à une véritable terreur alors qu'ils exigent l'autonomie, voire l'indépendance en Iran. Dans tout ça, l'ancien Shah d'Iran est devenu un embarras pour la politique américaine. Le régime révolutionnaire iranien exige qu'on lui livre l'ancien monarque. Et les États-Unis, évidemment, refusent. Mais le Shah d'Iran est atteint d'un cancer. En fait, il était atteint depuis longtemps d'un cancer, ce qui explique probablement sa relative apathie durant la révolution, son manque d'esprit de décision. C'était parce qu'il commençait d'être affaibli par la maladie. Et le seul endroit, dit-il, où il pourrait avoir un traitement correct, c'est sur le sol des États-Unis. L'administration Carter ne veut pas entendre parler d'une entrée du Shah d'Iran aux États-Unis, mais les amis américains du Shah, Henry Kissinger en tête, exigent que l'on accepte le Shah sur le sol américain pour des raisons humanitaires. Et le 22 octobre, Reza Chapalvi est admis dans un hôpital de New York, ce qui provoque les protestations officielles du gouvernement iranien. Mais surtout, le 4 novembre 1979, les étudiants révolutionnaires iraniens s'emparent de l'ambassade des États-Unis à Téhéran et l'affaire tourne à la prise d'otages. On exige contre la libération des diplomates américains détenus qu'on cède le Shah d'Iran. C'est le début de la crise des otages qui va durer 444 jours et qui va être une grande humiliation pour la politique américaine. Un test de volonté entre Carter et l'imam Khomeini sur cette couverture du Time. Vous voyez comment on fait un Khomeini particulièrement peu amène sur ce dessin. Alors, la première décision américaine est de geler les avoirs iraniens dans les banques américaines et de mettre fin à l'achat de pétrole iranien, ainsi que de suspendre toutes les exportations américaines vers l'Iran, en particulier dans le domaine des technologies civiles et militaires. Autrement dit, les décisions américaines frappent directement l'industrie pétrolière iranienne et l'armée iranienne. On est maintenant à un baril de pétrole à $40. Il a doublé en 6 mois. C'est le second choc pétrolier. Une flotte de guerre américaine prend position dans le Golfe. Alors, l'OLP propose sa médiation et Arafat envoie des émissaires en Iran. Ces émissaires sont particulièrement mal reçus parce que si les Iraniens ont fait des otages, ce n'est pas pour aider la stature internationale d'Arafat, mais pour défendre leurs propres intérêts. La révolution iranienne commence à s'envisager comme une révolution islamique mondiale qui serait menée à partir de Téhéran. Et de ce fait, toujours dans ces derniers mois de 1979, les manifestations anti-américaines se multiplient dans le monde musulman, en particulier en Turquie, au Bangladesh et surtout au Pakistan. Les Américains sont complètement surpris par l'ampleur de cet anti-américanisme qui combine le nationalisme anti-impérialiste et le rejet d'une certaine forme de modernité incarnée par le mode de vie américain. Les choses étant évidemment complexes, ce mode de vie américain est en même temps extrêmement tentateur pour les gens qui le contestent. L'Union soviétique se félicite plutôt dans ce début de Seconde Guerre froide de cette montée d'un anti-américanisme populaire dans le monde musulman, mais s'inquiète du fait que ce mouvement est aussi puissamment anti-communiste. Qu'est-ce que c'est que ces révolutions qui éclatent et qui sont menées non pas par la gauche révolutionnaire marxiste, mais par des militants religieux? Ce n'est pas prévu dans les écritures marxistes. En fait, ce qui se passe, c'est le paradoxe de cette période, c'est que les responsables des deux superpuissances analysent les conflits en cours dans la grille de la guerre froide. Tout progrès que je fais est au détriment de l'autre, c'est la grille de la guerre froide. On joue toujours dans un jeu à somme nulle entre Union soviétique et États-Unis, alors qu'en réalité, les deux superpuissances sont en train de perdre le contrôle des évolutions sociales de la région. Et on le voit très bien au moment de l'ouverture du 10e sommet arabe à Tunis, où on a les sujets routiniers, le Liban, la Palestine, etc. Et le même jour, qui est le 20 novembre 1979, c'est le premier jour du 15e siècle de l'islam en calendrier égérien. Et ce jour-là, un groupe de mahdistes, c'est-à-dire de millénaristes musulmans, s'empare de la grande mosquée de la Mecque en Arabie saoudite, c'est-à-dire le lieu le plus sacré de l'islam. La police et l'armée saoudienne encerclent le lieu saint et les Saoudiens sont complètement désemparés pour savoir ce qu'il faut faire. Il faudra 15 jours pour les Saoudiens pour reprendre le contrôle de la grande mosquée en faisant appel au GIGN français pour mener les opérations, alors qu'évidemment, comme c'est à la Mecque, on les a convertis hâtivement à l'islam pour permettre au capitaine Baril et aux autres de prendre le contrôle de la grande mosquée. Enfin, officiellement, jamais aucun gendarme français n'a été dans l'affaire. Alors, ces événements d'Arabie saoudite dissimule les autres réalités qu'un nouveau bloc est en train de se constituer dans la région, un bloc paradoxal puisqu'il est composé de la Jordanie et de l'Arabie saoudite qui sont les alliés arabes modérés entre guillemets des États-Unis et de l'Irak de Saddam Hussein. Ce bloc en constitution se met en opposition frontale à l'expansion islamique révolutionnaire du régime de Téhéran. Alors que Damas, en lutte avec les frères musulmans, lui, s'aligne sur le régime de Téhéran, donc les nouveaux regroupements qui sont en cours. On parle même de l'envoi de militants iraniens au Liban Sud, ce qui provoque la protestation des autorités libanaises. Et pour l'instant, il n'en est pas question, on renonce à l'envoi de gardiens de la révolution au Liban Sud, mais c'est une partie remise à plus tard. En revanche, il est clair dans cette date, à la fin 79, qu'un certain nombre de militants iraniens sont partis pour le Liban, dans lequel, et là au Liban, ils retrouvent d'anciens cadres du parti al-Darwa, c'est-à-dire du parti révolutionnaire irakien chiite, qui a été écrasé par Saddam Hussein, mais les militants d'al-Darwa se sont réfugiés depuis plusieurs années au Liban. Et donc là, vous avez le rapprochement entre ces militants d'origine irakienne du parti al-Darwa et les premiers envoyés de la révolution islamique au Liban. Bon, vous avez tous compris, je n'insiste pas, que nous sommes en train de là dans la phase de genèse du Hezbollah, dont l'un des noyaux durs sera justement ces militants du parti al-Darwa. C'est pour ça que dans certaines histoires du Hezbollah, même si officiellement le Hezbollah n'apparaîtra en tant que tel que dans les années 1980, certains auteurs font naître le Hezbollah à la fin 79, même si le nom n'est pas encore utilisé à ce moment-là. Alors avec tout ça, toutes ces émeutes, violences, etc., vous avez le droit à une pause de 5 minutes réglementaire.